Chapitre 6. Études. Le lendemain amena des réflexions qui n'étaient pas des plus agréables et un sérieux embarras auquel je n'avais pas songé en quittant Neuguent aux portes du presbytère. Les frères avaient quitté les sables. Qu'allais-je dire à Lucille quand elle ne recevrait pas la visite promise de celui qu'elle croyait être Oscar? Dans quel labyrinthe un premier mensonge qui en avait entraîné d'autres à sa suite, nous avait-il placés? Des malheurs consécutifs étaient venus nous en punir, et maintenant, seul pour faire face aux difficultés de notre position, je me voyais forcé de continuer à tromper Lucille. J'étais fatiguée et honteuse du rôle que je jouais. Ayant appris que Lucille ne s'attendait à recevoir la visite de Neuguent que dans l'après-midi, j'évitais d'en parler au déjeuner et je m'arrangeais pour occuper la jeune fille à son piano. Quand elle fut fatiguée de jouer et qu'elle se remit à parler d'Oscar, je mis mon chapeau et je m'en allais faire quelques-unes des emplettes de Zilla pour éviter momentanément la nécessité de tromper encore Lucille. Le temps était en ma faveur. Il menaçait de pleuvoir, ce qui fit que Lucille ne me proposa pas de m'accompagner. Après m'être arrêté dans une ferme sur la route de Brighton, je poursuivis mon chemin malgré la pluie qui commençait à tomber. Je ne craignais pas l'eau pour ma toilette et du reste, j'aimais mieux, dans l'état d'esprit où j'étais, recevoir une averse que de rentrer au presbytère. 1 mille plus loin, je vis sur la route une voiture ouverte qui venait de Brighton. Le tablier était levé pour protéger contre la pluie celui qui l'occupait. Je reconnus la voix de Grosseur qui, en me voyant, cria au cocher d'arrêter. Le galant médecin me força à monter à ses côtés et à l'accompagner au presbytère. « Nous ne nous attendions pas, lui dis-je, à l'agréable surprise de vous voir. Je croyais que vous ne deviez revoir Lucille qu'à la fin de la semaine. » Grosseur me regarda fixement avec une gravité que n'aurait pas désavoué M. Finch lui-même. J'avais eu l'intention de faire à Herr Grosseur d'assez vives remontrances sur son imprudence de mener Lucille au sable. Il était alors inutile de les lui faire et doublement inutile d'espérer qu'il me permît de me tirer d'embarras en disant la vérité à Lucille. « Vous savez mieux que personne ce qu'il convient de faire, lui dis-je, mais vous ne vous doutez guère de ce qu'il nous en coûte d'observer vos instructions. » Il m'interrompit vivement. « Vous ferez vous-même si ça n'en faut pas la peine. » Si l'examen de ses yeux me satisfait, je permettrai à ma belle Lucille de les exercer aujourd'hui même. Vous ferez, femme obstinée, s'il serait sage d'ajouter encore à l'agitation, à l'irritabilité, à l'épuisement, enfin à doux de l'étiapleries dont elle souffre en apprenant à exercer sa fue, après avoir été aveugle doux de sa vie. Tenez, n'en parlons plus jusqu'à ce que nous soyons au presbytère. » Voulant changer le sujet de la conversation, le docteur Grosseux me fit une question à laquelle j'eus à répondre avec prudence. « Comment va mon jeune et intelligent ami Neuguent ?» me demanda-t-il. « Très bien. » Je m'arrêtai, hésitant à m'aventurer sur un terrain dangereux. « Écoutez-moi bien, » reprit Herr Grosseux. « Mon ami Neuguent faut mieux que vous tous. » Il s'est dranguillisé Lucille et chantant qu'il continue à lui rendre visite en dépit de ce ballon gonflé de vent de M. Finch. Je le répète, je veux que Neuguent ait ses entrées dans la maison. Force m'était d'apprendre au docteur que le frère d'Oscar était parti et que c'était moi qui étais la cause de ce départ. Je crus un instant que le grand savant allait tout simplement m'administrer une paire de soufflets. Il serait impossible de rendre l'affreux jargon dans lequel il exhala sur moi sa colère. Qu'il me suffisait de dire qu'il déclara d'une importance capitale pour la guérison d'une malade aussi irritable et aussi délicate que la sienne, le rôle indigne que jouait Neuguent en l'absence de son frère. J'eus beau lui faire observer que Neuguent n'avait quitté Dymchurch que pour amener son frère et détromper Lucille, il refusa tout net d'entendre mes raisons. Il me dit, en jurant, que mon intervention lui créait des obstacles et que, n'était son affection pour Lucille, il ordonnerait sur l'heure au cocher de retourner à Brighton et nous laisserait nous tirer d'affaire. En arrivant devant la grille de la maison, le docteur se calma un peu. Il me rappela, tandis que nous traversions le jardin, que j'avais promis d'être présente quand il lèverait le bandeau de Lucille. Herr Grosseux annonça brièvement à Lucille que, n'étant pas retenu à Londres, il avait avancé le jour de sa visite. Comme vous n'avez rien à faire par un jour aussi pluvieux, dit-il, vous montrerez au père Grosseux comment vous pouvez vous servir de vos yeux maintenant que je vous ai rendu l'affût. En disant ces mots, le docteur enleva le bandeau, et prenant le menton de Lucile, il examina ses yeux à l'œil nu d'abord, puis avec la loupe. Trouvez-vous que je vais mieux ? Demanda Lucile avec anxiété. Très bien, lui répondit-il. Vous allez, comme on dit en Amérique, first class. Allons, un premier regard de reconnaissance pour le père Grosseux, puis examinez ce qui vous entoure. Il n'y avait pas à s'y tromper, Herr Grosseux était non seulement satisfait, mais triomphant. So, fit-il avec un grognement en se tournant vers moi. Pourquoi M. Seabright n'est-il pas ici pour foire la cure que j'ai opérée ? Je m'approchai de Lucile avec empressement. Je remarquai que ses yeux étaient encore un peu troubles et un peu égarés. Mais quel changement s'était opéré en elle et comme sa beauté était augmentée de ce nouveau sens ! Son sourire, toujours charmant, se répandait de ses lèvres à ses yeux et donnait à son visage une expression irrésistible. Je ne pouvais m'empêcher de l'embrasser. Je m'approchai d'elle pour le faire et pour la féliciter, mais Herr Grosseux m'arrêta. « Non, dit-il, allez à l'extrémité de la chambre pour voir si elle saura aller jusqu'à vous. » J'ignorais, comme tant d'autres, quelles difficultés immenses éprouvent les aveugles de naissance à qui l'on a rendu la vue à exercer ce sens nouveau pour eux. On croirait assister aux efforts d'un enfant qui apprend à marcher, et sans la conversation amusante de Grosseux, j'aurais éprouvé un sentiment des plus pénibles. Ma pauvre Lucile, au lieu de me causer la joie que j'espérais, aurait fait couler mes larmes et m'aurait déchiré le cœur. « Allons, dit Grosseux, en lui prenant le bras et en me montrant. La voilà devant vous. Pouvez-vous aller jusqu'à elle ?»« Naturellement. »« Eh bien, je vous parie 10 000 livres contre 6 pence que vous ne le faites pas. » « Essayez un peu. » Lucile, répondant par un geste de défi, fit 3 pas en avant. Mais, toute surprise et effrayée, elle s'arrêta subitement avant d'avoir fait la moitié du chemin qui me séparait d'elle. « C'est ici que je l'ai vue, » dit-elle en jetant un regard affligé sur Grosseux et en montrant du doigt l'endroit où elle s'était arrêtée. « Je l'aperçois et je ne sais où elle est. » Elle me semble si près qu'on dirait qu'elle me touche les yeux, et cependant je ne puis la saisir. « Qu'est-ce que cela veut dire, mon Dieu ? » s'écria-t-elle en faisant un autre pas et en agitant ses mains dans le vide, en croyant me saisir. « Cela veut dire que vous avez 6 pence à me payer, » dit Herr Grosseux. « J'ai gagné mon pari. » Lucile se fâcha de la plaisanterie du docteur. Elle secoua la tête et fronça ses beaux sourcils. « Attendez un peu, lui dit-elle, vous n'avez pas encore gagné. Vous allez voir. » Tout à coup, elle marcha jusqu'à moi, comme j'aurais marché jusqu'à elle si nous avions changé de place. « Je vous parie cette fois-ci 20 000 livres contre 1 pièce de 4 pence que, pour arriver à fou, elle a fermé les yeux. » Il ne se trompait pas. Les yeux fermés, Lucile pouvait mesurer les distances exactement, ce qu'elle était incapable de faire les yeux ouverts. Son innocente supercherie découverte, la pauvre fille s'assit en soupirant. « C'était bien la peine, me dit-elle avec tristesse, d'endurer l'opération pour arriver à un pareil résultat. » Grosseux nous rejoignit à l'autre bout de la chambre. « Patience, dit-il, vos yeux finiront par apprendre à y voir. Ah, je m'en fais vous donner une première leçon. Vous avez vos idées à vous sur les couleurs et ainsi de suite. » Quelles étaient dans votre imagination les couleurs que vous auriez le mieux aimé à contempler si vous aviez eu l'usage de vos yeux ? Le blanc d'abord, répondit-elle, puis l'écarlate. Herr Grosseux réfléchit un instant. Quant au blanc, je le comprends fort bien. Toutes les jeunes filles aiment le blanc. Mais pourquoi l'écarlate ? Affiez-vous quelque notion de cette couleur quand vous étiez aveugle ? Oui, quand on me montrait du doigt un objet de cette nuance, je sentais quelque chose me passer devant les yeux. Les personnes atteintes de la cataracte voient presque cette couleur, dit Grosseux en se parlant à lui-même. Il doit y avoir une raison à cela, et il faudra que je la découvre. Quelle était la couleur qui vous était la plus désagréable ?
Le noir.
Herr Grosseur remua la tête. C'est bien ça, dit-il. Les aveugles détestent le noir. Il faudra que j'en cherche aussi la raison. Le docteur s'approcha du bureau où il prit une feuille de papier et un essuie-plume de drap écarlate. Il chercha ensuite autour de lui et prit le chapeau en feutre noir qu'il avait porté pendant son voyage de Londres. Il rangea le chapeau, le papier et l'essuie-plume à côté l'un de l'autre. Mais avant que le docteur eût pu lui poser une question, Lucile indiqua le chapeau avec un geste de mécontentement.
« Ôtez-le de là, dit-elle, je n'aime pas avoir cet objet. »
« Attendez un peu, me dit Herr Grosseur à l'oreille. Cette antipathie n'est pas si extraordinaire que vous le pensez. Les aveugles qui recouvrent la vue l'ont tous. » Il se tourna vers Lucile et lui demanda si elle pouvait distinguer sa couleur favorite parmi ces trois objets. Lucile dédaigna le chapeau, prit l'essuie-plume, le regarda et le posa sur la table. Elle en fit de même pour la feuille de papier. Elle réfléchit ensuite un instant et ferma de nouveau les yeux.
« Un instant !» s'écria Grosseur. « Comment osez-vous fermer les yeux devant moi ? Quoi ? Je vous rends la vue et vous vous conduisez ainsi ? Ouvrez les yeux tout de suite ou je vous mets en pénitence dans un coin comme une méchante petite fille que vous êtes. Allons, dites-moi où sont vos couleurs de prédilection ?»
Lucile ouvrit les yeux avec répugnance et examina de nouveau le papier et l'essuie-plume.
« Je ne vois ici rien qui approche de l'éclat des couleurs que j'aime. »
Herr Grosseur tint devant elle la feuille de papier et continua à l'interroger sans pitié.
« Quoi, lui dit-il, me soutiendrez-vous que le blanc est plus brillant que ceci ?»«
50 000 fois plus blanc. »
« Bon, je vous donne votre première leçon, ma chère, » répondit Herr Grosseur en tirant de la poche de son tablier le mouchoir de Lucile. « Tenez, ce mouchoir est blanc, ainsi que ce papier, et je tiens dans la main deux objets de la couleur que vous préfériez étant aveugle. »«
Quoi ? Ils sont blancs ? » dit-elle en indiquant du doigt le mouchoir et le papier posés sur la table par le docteur, tandis que sa figure exprimait le désappointement. Elle tourna et retourna l'essuie-plume et le chapeau et me regarda. Herr Grosseur, qui attendait pour faire un nouvel essai, me laissa le soin de questionner Lucile. Le résultat fut le même que pour le papier et le mouchoir. L'écarlate n'était pas à moitié aussi brillant, le noir était 100 fois moins noir que ceux qu'elle s'était imaginés étant aveugles. Et cependant, cette dernière expérience sur cette dernière couleur lui avait rendu un peu d'espoir en produisant chez elle une impression désagréable et analogue à celle qu'avait produite sur elle la figure du pauvre Oscar, sans qu'elle sût que c'était la couleur qu'elle haïssait tant. La pauvre enfant, faisant un effort pour se rebiffer contre son professeur, lui dit qu'elle n'avait pu souffrir la vue de ce chapeau, sans savoir cependant qu'il était noir. Elle voulut, en parlant ainsi, jeter le chapeau sur une chaise qui se trouvait près d'elle, mais elle se trompa et le lança par-dessus la chaise, contre le mur, et à 6 pieds plus loin que le but qu'elle visait.
« Je ne suis qu'une pauvre sotte !» s'écria-t-elle, les joues rouges de honte. « Je ne veux pas qu'Oscar me voie. L'idée de paraître ridicule à ses yeux m'est intolérable. »«
Il va venir, » ajouta-t-elle en se tournant vers moi d'un air suppliant. « Arrangez-vous pour trouver une excuse qui lui fasse remettre sa visite à plus tard. » Je promis ce que me demandait Lucile, d'autant plus volontiers que je voyais là une occasion pour l'habituer à l'absence d'Oscar, pendant qu'elle apprenait à s'exercer la vue. La jeune fille reprit en s'adressant à Herr Grosseur avec impatience.
« Allons, faites en sorte que je ne sois pas aussi maladroite qu'une idiote ou mettez-moi mon bandeau. Mes yeux ne me servent à rien, entendez-vous » dit-elle en saisissant avec rage le docteur par ses larges épaules et en le secouant de toute sa force.
« Oui, mes yeux ne servent à rien. »
« Allons, allons, calmons-nous, petite diaplesse, ou je ne vous apprendrai plus rien, » répondit Herr Grosseur en prenant la feuille de papier et l'essuie-plume qu'il plaça sur ses genoux en la forçant à s'asseoir. « Savez-vous distinguer entre ce qu'on appelle un corps rond et ce qu'on appelle un corps carré ?»« Au lieu de répondre au docteur, Lucille se tourna vers moi.
« N'est-ce pas monstrueux, s'écria-t-elle, de l'entendre me poser une question aussi humiliante. Sais-je distinguer un objet carré ? Tenez, j'en suis tellement honteuse que je vous prie de ne rien dire de ceci, Oscar. »«
Mais puisque vous le savez, dites-le-moi, reprit Herr Grosse. Regardez bien ces deux objets qui sont sur vos genoux. Sont-ils tous deux ronds ou carrés ? Diffèrent-ils de forme ?»
Elle les examina, mais ne répondit pas.
« Eh bien, dit Grosse, j'attends.
Tenez, vous me troublez en me fixant ainsi à travers vos affreuses lunettes, répondit-elle avec irritation. Détournez les yeux et je vous répondrai tout de suite. »
Grosse détourna la tête avec son sourire diabolique et me fit signe de la surveiller à sa place. À peine le docteur avait-il le dos tourné que Lucille, fermant les yeux, se mit à palper des doigts les bords du feuillet et de l'essuie-plume.
« L'un est rond, l'autre est carré, » répondit-elle, juste à temps pour que Grosse, qui se retournait à ce moment, ne pût s'apercevoir de la ruse.
Herr Grosse, qui comprenait parfaitement qu'elle venait de le tromper, lui prit des mains les deux objets et les remplaça par une soucoupe en bronze et par un livre.
« Lequel est rond ?» lui demanda-t-il en les tenant devant elle.
Elle examina tour à tour le livre et la soucoupe, incapable de se tirer d'affaire rien que par l'usage de ses yeux.
« Je vous embarrasse, hein, ma jolie Lucille ?» dit Grosse.
« Vous ne pouvez pas fermer maintenant les yeux sans que je m'en aperçoive. » Lucille rougit et pâlit. Je craignis de la voir fondre en larmes. Herr Grosse savait la prendre. Ce vieillard excentrique et si mal léché montrait le tact le plus admirable.
« Fermez les yeux, » dit-il à Lucille d'une voix caressante. « C'est en effet la manière d'apprendre à y foire. Fermez les yeux, prenez-les dans votre main et dites-moi si c'est le livre qui est carré ou la soucoupe. »
Lucille lui répondit sans se tromper.
« Bon. Maintenant, ouvrez les yeux et constatez vous-même que c'est la soucoupe que vous tenez dans la main droite et le livre dans la main gauche. Bon, maintenant, remettez-les sur la table et voyons ce que nous allons faire ensuite.
Pourrais-je essayer d'écrire ? Lui demanda-t-elle vivement. J'aimerais tant voir si je puis écrire en ouvrant les yeux au lieu de me guider avec la main.
Non, 10 000 fois non, je vous le défends aussi bien que d'essayer de lire. « Venez avec moi à la fenêtre et voyons si vous pouvez voir, de ces yeux qui vous causent tant de chagrin, les objets éloignés. »
Pendant que nous étions occupés, le temps s'était éclairci. Le soleil sortait de derrière les nuées et le bleu du ciel commençait à reparaître. L'ombre des nuages poussée par le vent passait majestueuse sur les collines. Lucille, muette d'admiration, leva les bras en l'air lorsque le docteur ouvrit la fenêtre.
« Oh ! S'écria-t-elle, ne me parlez pas, ne me touchez pas, laissez-moi tout à mon bonheur. Au moins, je ne trouve pas ici que déboire et désenchantement. Non, jamais je n'ai rêvé quelque chose d'aussi beau que ce que je vois. »
Herr Grosse se tourna vers moi et m'indiqua d'un geste Lucille plongée dans l'extase par la vue sublime de la terre et du ciel qui lui apparaissait pour la première fois, tremblant de tous ses membres. Je compris que le geste du docteur voulait dire « Voyez à quelle nature délicate nous avons affaire. Saurait-on prendre trop de précautions avec un tempérament aussi sensible ?» Je tremblais, moi aussi, en songeant à l'avenir. Tout à présent dépendait de Nugent, et Nugent m'avait dit en propre terme qu'il n'avait pas confiance en lui-même. Je me sentis soulagé quand Herr Grosse tira Lucille de sa contemplation. La jeune fille eut beau le supplier de la laisser encore quelques instants à la fenêtre, il fut inexorable. Lucille, passant d'un extrême à l'autre, lui dit avec colère qu'elle était maîtresse chez elle et qu'elle ferait comme elle l'entendrait.
« Bien, à votre guise, » lui répondit Grosse sans hésiter. « Fatiguez-vous bien les yeux et demain, quand vous regarderez par la fenêtre, vous n'y ferez plus rien. »
La jeune fille, terrifiée par cette menace, aida elle-même à replacer le bandeau sur ses yeux et demanda, avec la soumission et la naïveté d'un enfant, si elle pouvait retourner dans sa chambre, occuper sa pensée de ceux qui venaient de la ravir d'admiration. Le docteur consentit à ce qu'elle demandait, d'autant plus qu'il approuvait tout ce qui pouvait tendre à calmer sa malade. « Si Oscar venait, me dit Lucille en passant près de moi pour gagner la porte, n'oubliez pas de me le faire savoir et ne lui parlez pas surtout des bévues que je viens de commettre. » Elle continua après un moment de réflexion. « Je n'y comprends rien, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie et cependant je me sens près de pleurer. » Elle se tourna vers Herr Grosse. « Venez, papa Grosse, que je vous donne un baiser. Vous avez été bien bon pour moi aujourd'hui. » Elle posa légèrement les mains sur les épaules du docteur et l'embrassa sur sa joue rude et ridée, puis elle me pressa doucement la taille et s'en alla. Herr Grosse se tourna subitement vers la fenêtre et, pour la première fois, je crois, son immense foulard lui servit à un usage inusité depuis bien des années.